la majorité a parlé comme quoi le son est bon. Donc, désolé, c'est peut-être moi qui parlais un peu trop bas tout à l'heure quand je vous expliquais ce qui se passait avec le pasteur Juan Carlos. Mais voilà. Donc, pour ceux qui veulent ouvrir vos Bibles, ouvrir leur Bible, ça se trouve dans le psaume 19 et j'ai mis le verset 14 ou 15. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Les gars de son ont des oreilles un peu trop affinées. Le son est correct à Saint-Tite. Sainte-Julie, la captation doit être difficile. Les ondes passent mal, je ne sais pas. Ou vous avez déjà commencé le décloisonnement, donc il y a des travaux autour de chez toi. Mais sois béni, Alex, on est content de t'avoir. Bonjour à la sœur Letty, Marianne Neiva. Dieu la bénisse. Content de vous avoir parmi nous. Vlad est pareil. Quoi, Vlad est à côté de toi, Émilie, puis il se plaint du son ce matin. Non, vraiment pas. Bonjour, Pamela. C'est entrecoupé. Ça, c'est pas moi. Je sais pas. J'espère que ça va aller pour tous les autres. Bon, alors, on va prier. Après quoi, on va commencer notre lecture et notre réflexion pour ce matin. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous lever et d'avoir ce souffle de vie. Merci Seigneur pour ta grâce que tu répands sur nous encore ce matin et pour la bénédiction que nous avons d'avoir cette liberté de plonger nos regards dans ta parole. Nous savons Seigneur que ta parole est une source de vie, une source d'instruction. Et aussi, Seigneur, la base sur laquelle nos vies sont fondées. Donc, nous te demandons ce matin, Éternel, d'étendre ta main sur notre entendement, sur nos pensées, sur notre réflexion, et de nous permettre, Seigneur, de saisir ton cœur et ta pensée, afin, Seigneur, que ce soit la directive ou les directions qui soient données à notre vie ce matin, toute cette journée, et dans le restant de cette semaine. Alors, je bénis ma sœur et mon frère qui ont fait l'effort d'être unis à nous ce matin pour ce temps de lecture, que ce soit profitable pour nous tous et que tu nous bénisses par ta présence et par ton onction. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je vous ai demandé d'ouvrir dans Psaume au chapitre 19 et je vous ai dit le verset 14 ou le verset 15. C'est très simple, c'est que dans certaines Bibles, il y a 14 versets, dans d'autres Bibles, il y a 15 versets. Non pas que le texte soit raccourci dans une version versus une autre, mais c'est plutôt que le premier verset, on le découpe différemment d'une version à l'autre. Le premier verset, dans ma version, qui a 15 versets, le premier verset du chapitre 19 dit « Au chef des chantres, psaume de David ». Mais dans d'autres versions qui n'auront que 14 versets, on rajoute le verset 2 au sein du verset 1. Donc voilà pourquoi il y a 14 ou 15 versets. Chose étant précisée, le verset thème pour ce matin, et vous voyez que la petite veut m'embêter. Non, ok, là, c'est bon. Donc, le verset thème pour ce matin, c'est donc le dernier verset, mais je vais lire le psaume au complet pour nous aujourd'hui. Donc, psaume chapitre 19. Au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Et la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je répète le verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Ce psaume est divisé en quelques sections, je dirais trois sections. Du verset 1 au verset 11, on a ce que j'appellerais une ode à la création de Dieu. On nous parle de cet univers des cieux qui ont été créés par Dieu. Et comment ces cieux proclament la gloire de Dieu. Du verset 8 au verset 12, on nous parle, du verset 7 au verset 12, effectivement, on nous parle d'une ode à la loi de Dieu, une ode à la sagesse qu'on trouve en Dieu, une exaltation de la parole révélée de Dieu, de ses préceptes, de ses jugements, de ses instructions pour l'homme. Et dans la dernière partie, à partir du verset 12 ou du verset 13, selon votre version, les trois derniers versets vont nous parler d'une confession de ce pécheur qui a regardé la création, de ce pécheur qui a entendu les instructions et la parole de Dieu et qui en devient repentant. Il va dire « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Et là, il fait une supplication à Dieu, qui est notre verset thème pour aujourd'hui. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Reçois favorablement. Ça veut dire que Dieu peut ne pas recevoir favorablement. Ici, David est en train d'intercéder pour sa propre existence, pour la propre prière qu'il élève vers Dieu, en disant « Seigneur, je prie que ce chant que j'élève vers toi, tu le reçoives favorablement. » Mais le terme « recevoir », c'est le terme « ratson » en hébreu, qui veut dire « plaisir, délice, acceptation », mais il est en train de dire à Dieu, je prie que tu le reçoives, mais que ce soit agréable même pour toi. Je prie, Seigneur, que ce soit agréable. Favorablement, c'est le terme païm qui veut dire de face, qui veut dire en présence de quelqu'un ou en personne. En fait, l'image qu'on nous donne ici, c'est comme si David, qui est lui-même roi, arrive à se présenter dans la cour rapprochée du roi des rois. Et il dit, Seigneur, j'espère que tu vas pouvoir m'accepter, moi, devant ton trône de grâce. Quelle image de ce roi le plus puissant, le plus glorieux de l'histoire humaine d'Israël, qui lui-même reconnaît qu'il n'est pas digne de s'approcher du roi des rois, et qui implore la grâce du Seigneur. Et il implore cette grâce du Seigneur sur ses paroles et sur les sentiments de son cœur. Les paroles de ma bouche, les promesses proclamées, les promesses que David a eues à émettre, les édits, les proclamations de sa bouche. Il dit, Seigneur, je prie que ce que j'ai décrété de ma bouche soit comme quelque chose d'agréable qui me permette à moi de me tenir en ta présence. Et il va dire, je prie non seulement que mes paroles soient acceptables en ta présence, mais je prie aussi, Seigneur, que les sentiments de mon cœur soient tout aussi acceptables. Et ici, les sentiments, c'est le terme hébreu « higayon » qui veut dire la méditation, les desseins, les propos, les projets. Donc David est en train de dire non seulement ce que moi j'ai pu proclamer devant toi, Seigneur, ce qui est sorti de ma bouche, mais même les projets que je suis en train de fomenter, même les projets qui animent ma pensée, même les objectifs profonds que j'ai qui n'ont pas encore franchi le pourtour de mes lèvres. Mais je demande, Seigneur, que l'orientation de ma vie, que mes projets, mes objectifs, mes buts te soient aussi agréables. C'est une pensée pour toi et pour moi ce matin. Parfois, on proclame des choses à Dieu et on espère effectivement que ces proclamations lui sont agréables. Et quand je parle de proclamation, ici, je parle de vœux qu'on fait envers l'Éternel. On lui fait des promesses, on fait des pactes avec lui, on l'assure de notre fidélité. Et je prie que ces paroles, effectivement, il les trouve agréables et qu'elles aient droit d'accès à son trône de grâce. Mais de surcroît à ça, David va dire, je veux même que les projets intimes de mon cœur, que les orientations que je suis en train de donner à ma vie, je prie que cela soit aussi acceptable pour toi. Actuellement, la plupart des projets ont été mis sur la glace. Actuellement, la plupart des projets qu'on pouvait avoir en tant qu'individu, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église, en tant que propriétaire d'une entreprise, en tant qu'ouvrier, en tant qu'étudiant, tous ces projets ont été mis sur la glace. Mais c'est peut-être l'occasion que Dieu nous donne aussi de faire un arrêt, de faire une introspection et de demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que mes projets, est-ce que mes desseins ont bien séance devant toi? Est-ce que mes desseins sont trouvés approuvables devant toi? Est-ce qu'ils te sont agréables? Est-ce que c'est des desseins dans lesquels tu prends plaisir? Est-ce que ce sont des projets qui t'allument, qui te plaisent, qui te glorifient? » Et je pense qu'il est important, avant qu'on accède à une nouvelle phase de notre vie active, avant qu'on ne réintègre un mode de vie qui est plus productif, il est probablement adéquat et approprié aujourd'hui de s'arrêter et de dire, Seigneur, les projets que j'avais pour demain, sont-ils ou ne sont-ils pas approuvables par toi? Peux-tu y apposer ton sceau d'approbation ou tu ne peux pas le faire? Et le cas échéant, ça veut donc dire que si je n'ai pas le sceau d'approbation de Dieu, j'ai donc un sceau de désapprobation. Alors c'est le temps pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur, de nous arrêter et de réfléchir au plan que nous mettions de l'avant et de demander au Seigneur, regarde Seigneur, si je m'en vais dans une voie qui n'est pas la tienne, si je m'en vais dans un champ d'action qui n'est pas celui auquel tu m'as appelé, Seigneur, dis-le-moi, afin que je ne m'éloigne pas des sentiers que toi tu traces devant moi. Et il dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Ô Éternel, Jéhovah, celui qui est, celui qui existe. Donc, celui qui est, ça veut donc dire que les autres ne sont pas. Parce qu'il dirait, sinon il dirait un de ceux qui est, un de ceux qui sont. Mais là, il dit celui qui est. Et ça exclut donc tout autre Dieu. Donc, on sait que notre Dieu est, que notre Dieu existe, qu'il est le seul qui est et le seul qui existe. Sachant que notre Dieu est une réalité véritable, véritablement réelle. C'est redondant, mais je fais exprès. Sachant la véracité de l'existence de Dieu, est-ce que je peux vivre une vie sans prendre en compte sa pensée pour mes paroles et sa pensée pour mes actions et sa pensée pour mes pensées? David dit, puisque je reconnais que tu existes, puisque je reconnais que tu es réel, puisque je reconnais que tu es le seul Dieu qui existe, qui est dans toute sa gloire, omniprésent, omnipotent, omniscient, on ne te cache rien, tu lis toutes choses dans nos cœurs, au plus profond de notre âme, tu es capable de lire. Alors Seigneur, je ne peux pas te cacher quoi que ce soit. Alors je veux que mes paroles soient acceptables, je veux m'assurer que mes actions soient acceptables, je veux aussi m'assurer que mes pensées et mes motivations soient acceptables, parce que j'ai reconnu que tu existes véritablement. Et dit Éternel, mon rocher et mon libérateur. Rocher, c'est le terme tsuwer. T-S-U-W-R, je ne sais pas comment vous le prononceriez en hébreu. Je vous donne une prononciation comme ça. Donc, T-S-U-W-R, qui veut dire un rocher, mais c'est un rocher particulier. On disait d'un rocher tsuwer qu'il avait une face qui était plane. En fait, c'était un rocher sur lequel on bâtissait quelque chose. Un rocher qui servait de fondement. Vous savez, ce n'était pas le genre de rocher avec des pics à droite et à gauche sur lesquels on ne peut pas bâtir quelque chose. Mais c'était un rocher qui était examiné, qui était choisi pour sa capacité à servir de fondement à un bâtiment. Et David est en train de dire, tu es mon rocher. Donc, ma vie est basée sur toi. Parce que ma vie est basée sur toi, je veux donc que tout ce que je suis, que tout ce que je dis, que tout ce que je fais, que tout ce qui m'habite soit acceptable. Parce qu'on ne voudrait pas que notre fondement nous éjecte, parce que ce qu'on place sur lui est inacceptable. Donc, on veut que la vie que nous bâtissons sur notre Seigneur, la vie que nous bâtissons sur le rocher des âges, la vie que nous bâtissons sur notre Dieu, on veut vraiment qu'elle soit acceptable, profitable et convenable aux yeux de Dieu. Il dit « Tu es mon rocher, donc le fondement de ma vie. » Et là, il va utiliser le terme « Tu es mon libérateur. » En français, la connotation d'un libérateur, c'est celui qui vient lorsqu'on est prisonnier et qui vient nous sortir de notre prison. C'est vrai, ça a ce sens-là, mais ça n'a pas que ce sens-là. Le terme libérateur est un terme aussi qu'on va retrouver dans le lexique ou le vocabulaire évangélique avec un mot dont on perd un peu le sens, rédempteur. Le bon terme serait effectivement « Tu es mon rocher, tu es mon rédempteur », le terme « Gaal ». Mais le terme « Gaal » ou « rédempteur », très souvent, on l'utilise dans nos chants, on l'utilise dans nos périodes de louange, d'adoration, dans nos prédications, mais on oublie ce qu'était un rédempteur. Un rédempteur était quelqu'un qui avait un droit de rachat sur un esclave. C'était quelqu'un qui pouvait libérer un esclave, mais pas pour le rendre tout simplement libre, mais qui pouvait acquérir les droits sur cet esclave. Un rédempteur était aussi quelqu'un qui avait le droit de rachat sur une femme qui était rendue veuve, mais qui n'avait pas eu l'occasion de porter un enfant. Le cas le plus illustre de la parole de Dieu, c'est le cas de Ruth et de Boaz. Boaz, qui est le cousin du mari de Ruth qui est décédé, donc Ruth est veuve, le cousin de son feu mari s'appelle Boaz. Et Boaz est un de ceux qui a droit de rachat, un de ceux qui ont droit de rachat sur la vie de Ruth, qui ont le droit de la prendre pour femme et de donner un enfant à Ruth qui ne sera pas considéré comme l'enfant de Boaz officiellement, mais qui sera considéré comme l'enfant de celui qui est décédé. Et Boaz, il va effectivement racheter Ruth. Il va prendre les droits sur la vie de Ruth et faire en sorte que cette postérité-là soit la continuation de son cousin qui est décédé. Jésus nous a rachetés. Jésus a accédé au droit de rachat et a utilisé le droit de rachat sur notre vie. Alors ici, David est en train de dire, moi qui étais chassé, moi qui étais esclave, tu m'as racheté pour me remettre dans ta famille. Un des cas qu'on oublie dans le Nouveau Testament, mais qui a le même sens, c'est le fils prodigue. Ce fils qui a demandé l'héritage de son père, qui est tout allé dilapider avec ses amis et avec les femmes, et qui se retrouve dans l'enclos des pourceaux, dans l'enclos des cochons, à servir de la nourriture à ses cochons, bêtes que les Juifs eux-mêmes ne peuvent pas manger. Et un des faits qu'on oublie, c'est que lorsqu'il décide de revenir vers chez son père, la Bible nous dit qu'il n'a plus de sandales. Mais dans la culture juive, quelqu'un qui n'avait pas de sandales, c'était un esclave. Donc le père, lorsqu'il va mettre un manteau sur son fils, qui est de retour à la maison, lorsqu'il va repasser un anneau au doigt de son fils, de retour à la maison, il est en train d'exercer un droit de rachat. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il va être obligé d'aller voir celui qui a acheté les droits sur son fils et qu'il va le libérer de cet achat-là, lui en rachetant les droits sur son propre fils. Exactement l'image de Dieu qui nous aime. Nous qui l'avons offensé, nous qui l'avons quitté et qu'il rachète nos droits. Alors, sachant comment Dieu a exercé son droit de rachat sur ta vie, sachant comment il t'a libéré de l'esclavage, sachant comment il t'a rétabli dans sa famille, sachant comment il t'a accueilli dans sa famille, sachant qu'il est supposé être le fondement sur lequel tu bâtis ta vie, alors il est important pour toi et pour moi de nous tourner ce matin vers le Seigneur et de lui dire, Seigneur, est-ce que les décrets que j'émets de mes lèvres, est-ce que les promesses que je fais de mes lèvres, est-ce que les choses que je proclame de mes lèvres sont acceptables en ta présence? Toi mon roi, toi le roi des rois, est-ce que les pensées intimes de mon cœur, est-ce que les projets que je mets de l'avant, est-ce que les orientations que je veux donner à mon existence, est-ce que cela aussi peut recevoir ton aval et ton approbation? Très régulièrement, on prête pas attention à savoir est-ce que nos paroles sont acceptables aux yeux, aux oreilles du Seigneur plutôt. On dit des choses, puis après ça, s'il y a question de se rétracter, ben on se rétracte. Plus ou moins, s'il y a question de se repentir, on se repent plus ou moins. S'il y a question de demander pardon, ben on demande pardon plus ou moins. Facilement à Dieu, un peu plus difficilement aux hommes, mais on se repent. Est-ce que ça ne serait pas plus adéquat de tourner effectivement notre langue 7 fois avant de parler? Et de dire, Seigneur, je veux m'assurer aujourd'hui, faire l'exercice aujourd'hui, Seigneur, avant que je ne parle, avant que je n'émette un décret, un édit, une proclamation, je veux m'assurer, Seigneur, que ces paroles honorent ton nom, honorent ta présence. Si je devais me retrouver devant le Seigneur, on se rappelle, on a dit que païen voulait dire être dans la présence de Dieu, avoir accès à son lieu de trône, avoir accès à sa présence intime. Est-ce que je me permettrais, si j'avais cette conscience que Dieu est vraiment là physiquement à mes côtés, est-ce que je me permettrais de dire ce que je dis? Est-ce que je me permettrais de parler comme je parle si j'avais cette conscience tout à fait profonde que Dieu est présent? Ben Dieu est présent. Alors fais attention à tes paroles. De surcroît à ça, Est-ce que les pensées, les plans, les projets que j'ai, et si je les amène devant le trône de grâce, est-ce qu'effectivement ils peuvent être approuvés par Dieu? Alors prie que tes motivations ce matin, ce soient les motivations de Dieu. Prie que tes desseins aujourd'hui, ce soient les desseins de Dieu. Prie que tes projets aujourd'hui soient les projets de Dieu. Tu es en pause fort probablement comme la majeure partie de tes concitoyens. Tu es probablement à la maison, tu travailles à un rythme réduit comparativement à ce qui était ton rythme il y a encore un mois. Prends ce temps un peu plus calme. Prends ce temps d'introspection pour demander au Seigneur, est-ce que mes paroles t'honorent? Est-ce que ce qui est à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, est-ce que cela t'honore aussi? Seigneur, si je devais demander ton approbation, pourrais-tu mettre ton sceau d'approbation sur ces plans? Et si Dieu ne peut pas mettre son sceau d'approbation sur tes plans, je t'invite, reconsidère tes voies, reconsidère tes projets, reconsidère tes plans. Dieu parle, Dieu répond. Je suis convaincu que si tu prends le temps tout simplement de prier, de chercher la face de Dieu, il saura répondre à ton questionnement. Alors c'était cela la méditation pour nous ce matin, une exhortation à chercher la face de Dieu et à lui demander, Seigneur, quand tu entends, approuves-tu? Quand tu vois l'intérieur de mon être, approuves-tu? Alors prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que nous venons de partager. Et effectivement, Seigneur, nos paroles sont comptées. Effectivement, Seigneur, tu prends en compte chacun des mots, chacune des proclamations que nous faisons. Et nous prions, Seigneur, que celle-ci te soit agréable, que tu y prennes plaisir et que tu puisses y apposer ton sceau d'approbation. Nous prions aussi, Seigneur, pour les projets qui sont nôtres. La plupart d'entre nous avons dû arrêter certains projets en raison de la pandémie, du confinement. Certains plans qu'on allait traiter à mettre de l'avant ont été stoppés pour une période encore indéterminée. Mais avant que nous n'allions plus loin, avant que nous reprenions un cours de vie plus rapide, voire même dans certains cas effréné, nous te demandons, Seigneur, nous voulons prendre sagement cette décision de te soumettre avant que nous débutions quoi que ce soit, nos plans, nos projets, nos desseins, afin, Seigneur, d'entendre ta voix qui nous dit oui ou qui nous dit non. Et je prie, Seigneur, que ma sœur et mon frère aient une réponse docile à ta voix, sachant, Seigneur, que tu es celui qui est, celui qui existe d'éternité en éternité. Tu es le véritable. Et quand tu nous dis qu'une chose est bonne, c'est parce que cette chose est bonne. Quand tu nous dis qu'une chose est mauvaise, c'est parce que tu sais pertinemment, au-delà, Seigneur, de notre compréhension, que cette chose, effectivement, n'est pas bonne. Alors je prie, Seigneur, pour ma propre vie, mais aussi pour mon frère et ma sœur, que nous ayons tous, Seigneur, cette sagesse de nous soumettre à tes plans, de nous soumettre à ta volonté et de s'assurer, Seigneur, que peu importe la phase de notre vie, peu importe, Seigneur, les orientations de notre vie, que nous puissions chercher auprès de toi approbation. Et si des aspects de notre vie, Seigneur, ne te glorifient pas, révèle-toi à nous, parle-nous, afin, Seigneur, que nous abandonnions les voies qui ne te glorifient pas, afin, Seigneur, que nous distancions de ces projets qui ne sont pas les tiens. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es aussi notre Rédempteur. Nous étions esclaves, esclaves du péché, condamnés à la mort, et tu nous as rachetés, ne serait-ce que pour ton rachat. Seigneur, nous voulons être agréables. Ne serait-ce que pour le salut que nous bénéficions tous en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons, Seigneur, t'être agréables. Alors aujourd'hui, je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Je le bénis dans ses résolutions de t'être agréable. Je le bénis, Seigneur, dans ces moments où il s'approche de ton trône de grâce. Et à l'instar de David, j'implore pour eux, mais pour moi aussi, Seigneur, que tu puisses recevoir favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, toi éternel qui es mon rocher et mon rédempteur. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, ça sera tout pour ce matin. Permettez-moi simplement de saluer ceux qui se sont joints à nous depuis qu'on a commencé. Juste remonter un peu. Bon, je pense que la première personne qui me vient, c'est Chanel. Que Dieu vous bénisse. Toi et toute la famille. Danou, Dieu te bénisse. Jeppe, José, Dieu te bénisse. Le frère Max, la sœur Noémie, Dieu vous bénisse tous deux. Hélène, Dieu te bénisse. Le bonjour à Karl. Bonjour Marcella, Dieu te bénisse. Nanji, Dieu te bénisse. Le bonjour à ma maman. Le psaume 19, un de tes préférés, Thérèse. Gloire à Dieu, content de t'avoir béni ce matin. Le frère Edwin Barrios, le frère du frère Max. Soyez bénis, content de vous avoir parmi nous. Royal Kidiadi, Dieu vous bénisse. Ramon, Dieu te bénisse. Jonathan, Mireille, Carly, Dieu vous bénisse tous trois. Marie-Huguette, Tania Queen, alias Tania Queen. Marie-Huguette, que Dieu te bénisse. Sœur Samek, soyez bénie, content de vous avoir parmi nous. La sœur Teresa, je ne sais pas si la sœur Dora est avec vous encore aujourd'hui, mais que le Seigneur vous bénisse. Denise de Saint-Adèle, Dieu vous bénisse. Darla, my friend, my Rocky 3 friend, love you very much, happy to have you here. Hopefully you understood something in my French. I'm happy to have you here, so be blessed. Darla nous vient de Calgary, en Alberta. Agnès de Carcassonne. Aristide Bombo, Dieu vous bénisse. La sœur Glenda, bonjour, Dieu vous bénisse. Je pense que c'est tout dans les nouveaux arrivants. Andrés, je ne suis pas sûr que je ne t'ai salué. Le son était bon à Saint-Hubert. Le son était bon à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le son était bon à Saint-Laurent. Le son était bon à Ville, à Montréal-Nord. Le son était bon à Villeray. Le son était bon, en tout cas, chez moi, à Roxboro. Mais moi, je ne prends pas de micro, donc j'espère que le son était bon aussi à Rivière-des-Prairies, à Ouagadougou, à Narbonne, à Paris, en Martinique, au Congo. Voilà, il y a tous ces endroits-là qui étaient connectés avec nous. Donc, que Dieu vous bénisse. On vous rappelle notre prochain rendez-vous. Donc, c'est demain matin, toujours 8h30 pour notre bénédiction matinale. Et demain soir pour l'étude biblique à 19h. Donc, demain, deux rendez-vous, 8h30 le matin et 19h en soirée. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Continuez à méditer la parole que nous avons partagée ce matin. Pensez à vos paroles, pensez à vos pensées, pensez à vos projets. Et soyez sages pour demander à Dieu s'il approuve ou non ce dans quoi vous vous élancez. Donc, ceci étant dit, à demain. Et puis, il se posait pleuvoir cet après-midi à Montréal. Donc, restez bien couverts, chacun de vous. Je vous aime et on se reparle bientôt. Au revoir.